Deuxième temps de notre série consacrée à des portraits de villes en mouvement, après Chicago hier, avant Lisbonne demain, aujourd'hui Paris et le fleuve la Seine. La Seine nous a montré jusqu'à la semaine dernière encore combien elle n'était pas seulement le fleuve paisible qu'imaginaient les touristes lorsqu'ils montent sur des bateaux-mouches. Dans le cadre de notre série Portraits de villes en mouvement, notre documentaire du jour, réalisé par Renaud Dalmat, nous conduit de la Seine nourricière, celle du XVIIIe siècle, à la Seine spectacle du XXe, grâce aux descriptions et aux analyses d'Arlette Farge, d'Isabelle Bacouche, de Quentin Delermoz, de Karen Bowie et de Pascal Horry, auxquelles s'ajoutent les lectures de Daniel Königsberg. Nous cheminons le long des berges, du Pont Neuf à la Tour Eiffel, en tentant de comprendre comment l'aorte de Paris, par laquelle toutes les denrées et les matières premières arrivaient au cœur de la capitale sous l'Ancien Régime, s'est progressivement vidée de ses marchandises pour n'être plus qu'un lieu de contemplation, de promenade et de spectacle.
Depuis ma résidence à Paris en 1754, j'ai toujours remarqué que la police y était mal organisée. Il faudrait éviter les engorgements de voitures sur les quais, où on est exposé continuellement à des querelles fréquentes entre charretiers, à perdre des hommes, des chevaux et du temps.
De la Seine nourricière à la Seine spectacle. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Renaud Dalmat.
Il serait aussi nécessaire de détruire tous les bureaux et échoppes qui sont sur les ports et qui ne servent actuellement que pour favoriser les mal intentionnés, augmenter la garde du port et avoir deux corps de garde sur le quai. L'un près de la rue de Seine, l'autre près de la rue des Fossés Saint-Bernard.
Arlette Farge, nous voici descendus sur les quais. Qu'y a-t-il au XVIIIe siècle entre une rue et la Seine ?
Du sable. En fait, c'est les bords de la Seine sont meubles. Donc, en fait, on descend tranquillement par des... même pas des sentiers, par pas une plage, ça serait trop joli, mais par... voilà, sur la
une
terre.
Une rive ?
Sur, oui.
Et cette à bord de Seine, cette grève qui descend en pente douce jusqu'à l'eau, elle est occupée par quoi ?
Ah ben elle est plus que suroccupée. C'est l'artère de Paris. Paris est approvisionné entièrement par des bateaux et par l'eau.
Parce que les routes sont trop mauvaises.
Bien sûr. Donc ce qu'on voit sur la Seine, c'est à la fois une foule piétonnière, bien sûr, qui est là, présente, parce qu'elle va essayer d'acheter directement des produits à l'arrivée des bateaux. Et puis il y a effectivement pas mal de police, de gardes, de sergents de la garde. En haut des ponts, beaucoup de musique, des chansons, des danses, et puis des avis. Des avis qui sont donnés, voilà, comme ça, qui sont à la cantonade.
En un siècle et demi, de 1750 à 1900, le spectacle du fleuve qui traverse Paris a profondément changé. De la Seine encombrée de bateaux-lavoirs et bordée de tonneliers, de bouchers, de tripiers, de menuisiers et de colporteurs, à la Seine canalisée dans ses berges et parcourue seulement par quelques péniches, une armée de bateaux-mouches et des milliers de promeneurs par beau temps, la différence est saisissante. L'artère nourricière de Paris paraît bien vide à celles et ceux qui, du haut des ponts, tentent aujourd'hui d'imaginer la multitude d'activités qui peuplaient les berges au XVIIIe siècle. Pour comprendre ce changement radical, nous sommes justement descendus sur ces berges avec cinq chercheuses et chercheurs. Arlette Farge, qui a écrit sur la vie fragile des Parisiennes et des Parisiens au XVIIIe siècle, Karen Bowie, historienne des chemins de fer, Quentin Delermoz, historien du social et du politique à la fin du XIXe, Pascal Horry, spécialiste d'histoire culturelle et des expos universelles, et Isabelle Bacouche, qui a consacré sa thèse à cette transformation de la Seine entre XVIIIe et XIXe siècle.
Le pont Neuf en 1750, c'est un pont assez original dans Paris. C'est le premier pont parisien qui relie la rive droite et la rive gauche directement. Alors bon, c'est vrai qu'il enjambe le bout de l'île de la Cité, mais enfin, de ce point de vue-là, c'est un pont assez moderne au moment où il est inauguré. Deuxième facteur de modernité, c'est que c'est le premier pont parisien qui est conçu sans maison, puisque tous les autres ponts parisiens, le pont au Change, le pont Notre-Dame, le pont Saint-Michel, ont été construits et reconstruits avec à chaque fois des maisons, c'est-à-dire des immeubles de 5 étages. C'est pas juste des bicoques qui sont sur le pont.
Sur ce pont, néanmoins, il y a une construction.
Le pont Neuf, effectivement, abrite une pompe qui s'appelle la pompe de la Samaritaine, en raison du bas-relief qui représente Jésus et la Samaritaine. Et cette pompe a pour vocation d'alimenter les édifices royaux, notamment le palais du Louvre. Donc, elle prélève l'eau de la Seine et ensuite elle est distribuée par des canalisations. Et cette pompe est particulièrement surveillée puisqu'elle est à sa tête, on a un gouverneur qui gère le mécanisme, qui surveille son bon fonctionnement et qui est souvent en conflit au XVIIIe siècle avec les activités qui sont un peu plus en amont, qui ont tendance à non seulement polluer l'eau, mais aussi encombrer les mécanismes de la pompe. Parmi les activités qui vont encombrer et nuire au bon fonctionnement de la pompe, on peut citer les bouchers, puisque la boucherie de Paris est installée autour du Châtelet. Tous les animaux arrivent jusqu'au cœur de Paris sur leurs pattes et qu'ensuite elles s'y sont tuées et débitées. Et les bouchers ont tendance à jeter quelques ossements ou quelques détritus qui leur restent sur les bras. Et finalement, la Seine s'offre comme une poubelle assez commode. Ce qui fait que très souvent, le gouverneur donc, de la pompe, la vallée, écrit des lettres indignées en expliquant que les ossements bloquent le mécanisme de la pompe.
Tarifs des droits qui doivent être perçus pour le port des marchandises qui seront voiturées dans les bateaux de la diligence par eau. De Paris à Rouen, et de Rouen à Paris, et ville de la route. En conséquence du privilège exclusif accordé par lettre patente du 14 mars 1723. Acier, 9 livres 6 sols 8 deniers. Aloès, 14 livres. Amande, 14 livres. Amidon, 11 livres 13 sols 4 deniers. Anchois, 11 livres 13 sols 4 deniers. Anis vert, 11 livres, 13 sols, 4 deniers.
Arc-en-ciel. Chaque marchandise, quand elle rentre dans Paris, est assujettie à un octroi. Et pour les marchandises, on va dire, qui ont trait à la vie courante, donc le vin, le bois, le foin, le charbon, les céréales, la Seine fournit à peu près deux tiers des approvisionnements de la ville. C'est un rôle absolument majeur et ça explique aussi que la Seine soit si surveillée et si quadrillée et si partagée et finalement qu'on aboutisse à tant de conflits au XVIIIe siècle puisque c'est un espace absolument vital pour la survie de la capitale.
Et porte leur dos, patron de la culotte, la planche, tu vas pas être déçu.
La Seine est aussi une gigantesque laverie à portée de tous les Parisiens puisqu'il y a à peu près 90 bateaux qui accueillent chacun 24 blanchisseuses. Et on a là une idée précise puisque chaque tenancier de bateau à lessive donc paye un loyer, signe un bail et paye un loyer. Donc il y en a dans tout Paris. Hein. Donc là, ça s'échelonne vraiment depuis la Bastille jusque... Alors ça va... Il va y en avoir de plus en plus sur un rayon de plus en plus vaste au fur et à mesure que la ville s'étend. Mais disons que tous les quartiers parisiens sont desservis par un bateau de blanchisseuses. Ces blanchisseuses récupèrent le linge, le lavent et le redistribuent une fois qu'il est sec. Et c'est le peuple parisien qui fait laver son linge à Paris, puisque la noblesse, elle, qui a plus de moyens et plus de temps et probablement aussi plus de linge, envoie son linge à laver à l'extérieur de Paris, dans des rivières ou des ruisseaux où l'eau est probablement, on peut imaginer, plus pur. Donc ces bateaux de blanchisseuses, c'est vraiment un service qui est rendu à la population parisienne modeste. L'espace fluvial est extrêmement réglementé et il est loué à chacune des activités, même un filet de pêche sous une arche d'un pont. Et puis ensuite, chaque port qui accueille une dorée particulière, tout cela est dessiné. Un bateau de blanchisseuse doit s'installer à tel endroit. On trouve des plans avec donc chaque denrée a un espace particulier. Un bail est en général est signé pour 9 ans, moyennant une redevance. Donc tout ça est extrêmement réglementé et celui qui est à la tête de toute cette organisation, c'est le prévôt des marchands, qui est très jaloux au XVIIIe siècle de cette surveillance, puisque c'est à peu près le seul pouvoir qui lui reste dans Paris.
Et puis il y a cet événement extraordinaire en octobre-novembre, c'est l'arrivée des troncs de bois qui arrivent dans l'eau directement, ils ne sont pas sur les bateaux.
Arlette Farge.
Et les ouvriers, qui s'appellent les ouvriers du bois flotté, vont les mettre sur les rives meubles. Et pour ça, ils vont être obligés de sauter d'un tronc à l'autre, ce qui occasionnera très souvent beaucoup d'accidents, parce qu'ils vont se trouver coincés entre deux troncs d'arbres, etc. Et ça me fait penser à la quantité extrêmement grande de noyés qu'il y a dans la Seine. Il y a plein d'accidents, ça peut être les blanchisseuses, ça peut être les ouvriers des chargeurs. Et finalement, ce n'est que dans les années 1760 qu'on va s'occuper du secours aux noyés. Donc on va trouver sur les berges beaucoup de petites cabanes où il y a toujours un garde qui est là. Et s'il y a un noyé, tout le monde sait qu'on peut l'amener dans cette cabine. Et on peut appeler un médecin si c'est vraiment très grave. Sans quoi, dedans, il y a un petit équipement, il y a des couvertures. Et il y a aussi ce petit appareil un peu particulier qui ressemble à une pipe et qui est inséré dans l'anus du noyé. Et on va mettre de la fumée dans cet orifice particulier pour qu'il retrouve son souffle. Bon, je ne dis pas qu'il y en ait beaucoup qui guérissent, mais on s'occupe d'eux beaucoup. Et surtout, et ça c'est quand même très police, c'est ce mélange infernal finalement, pendant que cette personne est en train d'être soignée dans des conditions qui ne sont pas toujours, comme vous le voyez, très favorables, il y a un officier de police qui lui demande comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait comme métier, etc. Et cet être estourbi complètement doit annoncer et donner ses réponses. C'est vraiment absolument surréaliste.
Je crois que ce serait le cas de rendre une ordonnance qui enjoigne à tout batelier et pêcheur de retirer sur le champ les cadavres de l'eau, notamment lorsqu'ils sont depuis peu dans la rivière. Il faudrait savoir quelle partie l'on pourrait prendre pour dissuader le public et surtout les gens de rivière de l'idée et de la crainte qu'ils ont, quand ils trouvent des cadavres, de s'exposer à être entrepris et soupçonnés par la justice.
Et on voit passer de temps en temps des coches d'eau.
Ce sont des bateaux pas très grands. Il y a 24 à 28 enfants dedans qui sont tout petits. Hein. Ce sont des nourrissons, donc ils sont très emmaillotés. Et le bateau, il est construit avec des casiers. Donc le petit bébé, il est mis debout dans son maillot, dans une case, avec des petits casiers. À l'arrière, il y a une sage-femme qui a un petit peu de lait. C'est du lait de chèvre, mais enfin, en général, elle a du vin, parce qu'elle pense que c'est mieux. Voilà. Et puis, il y a le conducteur qui fait des trafics tout au long de la Seine. C'est comme il y a des enfants qui meurent pendant le trajet, il va les déposer sur la rivière et puis il va en prendre un autre, parce que ça lui rapporte à chaque fois. Donc, bien sûr, elle n'a jamais assez de lait, la nourrice, pour les 24 enfants. Donc, non seulement il y a des noyés, mais il y a des enfants qui arrivent ivres chez la nourrice. Et puis, il y a les coches d'eau de retour. Hein. Donc, ils reviennent quand même régulièrement et ils ramènent les enfants 3 mois, 6 mois, 8 mois après, dans les mêmes conditions. Et les parents les attendent et sont très nombreux à les attendre sur le port.
Oui, donc c'est une vie qui est une vie de travail avec les travailleurs qui sont au bord de la Seine. C'est une vie de famille aussi, parce que les familles descendent et pour emmener les enfants, pour les récupérer. Et donc, la Seine est véritablement l'artère nourricière, vous le disiez, l'artère de Paris.
Ah, pour moi, c'est vraiment l'artère de Paris. On ne peut pas comprendre Paris, je crois, si on ne comprend pas l'activité de la Seine. Effectivement, c'est vraiment... c'est la horte de Paris.
Thank you.
histoires de tous les règnes rappellent aux Parisiens quelques heureuses circonstances que leurs magistrats ont célébrées par des fêtes. Le mariage de Madame, infante, offrit à feu Turgot, prévôt des marchands, une occasion d'en donner une de ce genre.
Extrait de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur les fêtes pour le mariage de l'infante en 1739.
On était en usage de prendre l'hôtel de ville pour le centre des réjouissances publiques. Il pensa qu'une belle fête ne pouvait être placée sur un terrain trop beau. Et il choisit l'éperon du Pont Neuf sur lequel la statue d'Henri IV est élevée pour former le point de vue principal de son plan. Ce lieu, par son étendue, par la riche décoration des divers édifices qu'il domine et qui l'environnent, surtout par le bassin régulier sur lequel il est élevé, pouvait faire naître à un ordonnateur de la trempe de celui-ci les riantes idées des plus singuliers spectacles. Voici celles qu'il déploya aux yeux les plus dignes de les admirer. On vit d'abord s'élever rapidement sur cette espèce d'esplanade un temple consacré à l'hymen. Il était dans le ton antique. Dans le milieu du canal que forme la Seine et vis-à-vis le balcon préparé pour leur majesté, s'élevait un temple transparent, composé de 8 portiques en arcades et pilastres, avec des figures relatives au sujet de la fête. Entre le temple et le pont neuf étaient 4 grands bateaux en monstres marins. Il y en avait 4 autres dans la même position, entre le temple et le pont royal.
La dimension festive sur la Seine est essentielle. Elle participe au fait qu'au XVIIIe siècle, la Seine est un haut lieu qui occupe finalement tous les aspects de la vie des Parisiens.
Isabelle Bacouche.
Pourquoi la Seine ? Eh bien, d'abord, il faut quand même imaginer une ville médiévale entassée, avec des rues qui sont quand même très peu larges. Et donc, si on veut donner un spectacle dont vont pouvoir profiter un maximum de gens, eh bien, il faut trouver un large espace, un vaste espace. Et à part quelques places royales dans Paris, finalement, la Seine, avec ses quais, parfois des quais hauts et des quais bas, eh bien, ça permet effectivement de grouper le maximum de gens. En ce qui concerne les feux d'artifice, un deuxième avantage, c'est que ça permet aussi éventuellement d'éviter l'incendie. Hein, si jamais, bon, à l'époque, il y avait des artificiers qui étaient déjà très au point, mais on était plus rassurés de tirer ces feux d'artifice à proximité de la Seine.
En passant hier, monsieur, sur le quai du Louvre, j'ai vu avec surprise que l'on y déposait des bois à brûler et que les ouvriers étaient occupés à en former des piles. Vous savez que les places qu'occupent les marchands doivent être incessamment évacuées pour que l'on puisse faire les réparations nécessaires et établir des trottoirs. Il est intéressant de profiter de la belle saison pour continuer ceux commencés au Pont Royal. On ne peut souffrir plus longtemps qu'il y ait le long des galeries des Tuileries et du Louvre des charrettes, des haquets et des piles de bois qui contrastent avec la beauté de cet édifice et embrassent en tout temps la voie publique.
Lettre de Laurent de Villedeuil, secrétaire d'État à la Maison du Roi, au prévôt des marchands, 5 mars 1789.
La Seine au XVIIIe siècle à Paris est un moment, on va dire, de transition. À la fois, c'est un moment où la Seine est très exploitée, parce que la population aussi a beaucoup augmenté depuis le Moyen-Âge, et elle augmente au XVIIIe siècle. Mais on commence aussi à avoir de nouveaux critères s'imposer. L'idée qu'il faut mieux circuler. Donc mieux circuler, ça veut dire effectivement pouvoir traverser Paris d'est en ouest le long de la Seine. Il y a aussi la salubrité. On est persuadé que l'entassement de toutes ces activités sur le fleuve, y compris d'ailleurs les maisons sur les ponts, qui, dans la pensée médicale de l'époque, empêchent l'air de circuler à la surface de l'eau. Et on est convaincu que si l'air circule à la surface de l'eau, il sera purifié. Eh bien, toutes ces bonnes raisons vont vers l'idée qu'il faut éradiquer et chasser toutes ces activités sédentaires du cœur de la ville, sachant que l'organisme urbain, Paris, mais d'autres villes au XVIIIe siècle, sont décrits de plus en plus comme des lieux de perdition, de pollution, des lieux malsains.
Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine. Personne ici ne songera à contester la nécessité de l'alimentation de Paris en eau de source. Nécessité dont l'urgence n'a fait qu'augmenter. Et le Conseil est unanime à réclamer, en 1890, la solution que M. Pasteur, en 1877, appuyait de sa haute autorité. À notre avis, néanmoins, cette solution toute seule est incomplète. Nous ne pensons pas qu'on doive considérer la pollution sans cesse croissante des eaux de la Seine comme un de ces faits inéluctables qu'il faut subir avec résignation. Nous croyons fermement, au contraire, qu'on peut arriver à limiter et à réduire cette contamination et que de tout ce qu'on fera dans ce sens, il résultera un gain non négligeable pour l'hygiène publique. Il serait chimérique d'espérer rendre à l'eau de la Seine, à Paris, le degré de pureté qu'exige l'alimentation humaine. Il est possible, donc il est nécessaire, d'empêcher que le fleuve qui embellit Paris ne soit changé en une nappe d'eau corrompue qui l'empeste. Entre le tout et le rien, il faut choisir le faisable. Ne dût-elle plus servir d'ailleurs qu'aux besoins de la voirie, arrosage et lavage, il y aurait encore intérêt, à notre avis, à faire tout ce qui est pratiquement possible pour réduire au minimum l'insalubrité de l'eau de Seine.
À partir de quand, Isabelle Vacouche, la question de l'hygiène de l'eau de la Seine est-elle posée?
Alors, au XVIIIe siècle, la question de la pureté des eaux, de la qualité des eaux, de la possibilité de la consommer, c'est une question qui est agitée. Alors, il faut déjà bien voir que plus de la moitié de l'eau consommée par les Parisiens provient de la Seine. L'approvisionnement en eau, à la fois des fontaines, mais ensuite, à terme, on a déjà l'idée, effectivement, de pouvoir distribuer l'eau dans certaines maisons, même si tout ça va se faire très doucement, va être l'objet, on va dire, d'un conflit technico-politique à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et on va voir deux solutions s'affronter. La solution des pompes à feu, donc des machines à vapeur, que les frères Perrier portent et qui seront effectivement retenues, au détriment de la solution qui était portée par un ingénieur qui s'appelle Deparcieux. Et son idée, c'était de détourner le cours de l'Yvette, c'est-à-dire en fait de faire la solution qu'Haussmann fera avec le détournement des rivières qui vont, la Duisse et la Vanne, qui vont ensuite approvisionner Paris au XIXe siècle, qui était quand même une solution beaucoup plus raisonnable vu la taille de la capitale et le nombre de Parisiens qu'il fallait abreuver. Donc Deparcieux, lui, veut construire un aqueduc et détourner cette rivière, ce qui représente effectivement des travaux beaucoup plus conséquents. Or, deuxième partie du XVIIIe siècle, la monarchie n'est pas dans une santé rutilante du point de vue financier. Mais il y a un deuxième, c'est pour ça que je disais que c'était une affaire technico-politique. Le prévôt des marchands va lutter contre cette solution. Et dans les plaidoyers qu'il fait, on voit bien qu'il ne veut pas que la Seine perde son exclusivité et finalement son caractère indispensable de ce point de vue-là. C'est ce qui justifie son pouvoir finalement. Il a pouvoir sur un espace qui est vital. Si on arrive à trouver des solutions alternatives, pour lui, ça édulcore son pouvoir et donc il va s'opposer à cette solution.
Lorsque j'ai formé le projet d'une machine en remplacement de la pompe Notre-Dame et du pont Neuf, j'ai cherché à m'assurer de l'état de la rivière dans les basses eaux du lieu où j'ai proposé d'établir cette machine. Depuis l'arsenal jusqu'à l'endroit communément nommé le nœud de l'aiguillette, au-dessous des Invalides, le lit de cette rivière est un vrai cloaque dans la longue traversée de Paris. Le dépôt des immondices de tout genre, qui l'infecte et l'encombre dans plusieurs endroits, ne laisse de navigable qu'une petite partie de son étendue. Les murs des quais, les escaliers, les abreuvoirs, l'intradose des voûtes des ponts dégradés et dont partie peut tomber au moment du passage des navigateurs, le pied des piles, surtout aux endroits déradiés, est très dégradé. Tout, enfin, est dans un état de délabrement qui caractérise l'insouciance la plus pernicieuse. Il suffit de parcourir les bords de cette rivière pour s'en convaincre. Malgré les précautions qu'on a prises lors de la démolition des maisons sur les ponts, on n'a pas pu retenir la totalité des pierres et des gravois. Ce qui est tombé obstrue le passage au droit des arches et devient très nuisible aux bateaux et trains de bois. Ces pierres et gravois rendent le fond de la rivière très irrégulier et en font dévier le courant qui devient très dangereux.
Jean-Pierre Angot, architecte, 1791.
Au XVIIIe siècle, naviguer sur la Seine, en tout cas dans Paris, c'est compliqué. Et les ingénieurs des ponts et chaussées,
Isabelle Bacouche,
vont effectivement souhaiter faire de la Seine un espace dédié presque exclusivement à la navigation. Donc ça demandait toutes sortes de travaux au niveau des ponts, ça demandait d'éradiquer toutes les activités sédentaires. Alors, réaménager la Seine, ça veut dire construire une ligne de quai continue, c'est-à-dire pouvoir aller d'est en ouest sur les deux rives au bord de l'eau. Ça veut aussi dire détruire les maisons qui sont sur les ponts, ça veut dire réaménager toute une série de sites qui sont à proximité du fleuve et sur lesquels on veut, on va dire, des espaces plus dégagés et moins encombrés. Alors, on sait peu que le premier plan d'aménagement à l'échelle de toute la capitale, puisque jusque-là, c'était surtout des places royales ou des bâtiments qui avaient été conçus, c'est un projet qui est conçu par l'architecte de la ville, Moreau Desproux, qui date de 1769 et qui prévoit une trentaine d'opérations sur tout le cours du fleuve. Alors, ce projet, on chiffre en 1769 les dépenses à 30 millions de livres et on se dit que progressivement, on essaiera de le mettre en œuvre. Et effectivement, dans la dernière décennie de l'Ancien Régime, alors que là, la crise financière est déjà très grave, en 1786, on lance un grand emprunt qui affiche la volonté de faire ses travaux sur la Seine, mais dans la manière dont il est lancé, l'emprunt va dans les caisses du roi, à charge pour le roi de reverser l'argent au prévôt des marchands. Et on trouve dans les archives des lettres de Necker qui répond au prévôt des marchands qu'il est désolé, mais que là, pour le moment, il ne va pas pouvoir verser l'argent. Or, là, le prévôt des marchands et la ville ont entamé les travaux. Donc, cette question financière, à la fois du manque d'argent, du lancement de l'emprunt, et finalement, du fait que la ville lance les travaux sans récupérer l'argent, montre la détermination à réellement redessiner l'espace fluvial au XVIIIe siècle. Cette densité de la Seine, qui superposait toutes sortes de pratiques, un paysage finalement fait à la fois de monuments majestueux et de bateaux qui rendaient des services à la population parisienne, tout cela va être, on va dire, trié, sélectionné, évacué, et on va arriver à la Seine un petit peu désincarnée du XIXe siècle. Mais ce choix de faire de la Seine un axe de navigation à la fois au service de la ville, mais aussi au service de l'intérêt national, parce que l'idée, c'était de relier la Seine à tout un réseau de canaux qui était en train d'être échafaudé et conçu au nord de la France, au nord et à l'est, va être un tout petit peu contrecarré par l'apparition du chemin de fer. Alors bon, il y a des chevauchements entre les deux moyens de transport. Les travaux d'Haussmann, toutes les matières premières, sont arrivées à la fois par la Seine, mais également, il faut quand même le dire, par le système de canaux qui a été conçu au début du XIXe siècle, qui permet finalement de reporter à l'extérieur de la ville, vers la Villette, toute une série d'activités de dépôts, de provisions et de marchandises.
Karen Bowie, bonjour. Je voulais vous demander, vous qui êtes spécialiste d'histoire des chemins de fer, ce que l'arrivée du chemin de fer avait fait dans la ville de Paris au XIXe siècle, et en particulier dans cette question des transports, puisque jusqu'alors, beaucoup des marchandises étaient transportées par le fleuve, et que progressivement, ces marchandises vont être donc détournées vers le chemin de fer.
Donc les chemins de fer changent tout, mais certaines choses perdurent aussi. La quantité brute des marchandises arrivant dans Paris par voie fluviale tout au long du XIXe siècle, est resté stable. Cependant, l'explosion économique et industrielle auxquelles les chemins de fer ont participé est tellement importante que la proportion est extrêmement réduite. À la fin des années 1830 et dans les années 1840, quand les chemins de fer arrivent, c'est une question complexe de trouver les lieux d'implantation, c'est où trouver la place pour ces équipements. Il y avait des projets initiaux pour faire venir les chemins de fer au cœur de Paris, jusqu'au Palais Royal. Ça donne lieu immédiatement à des débats sur l'aménagement de la ville. Tout est lié, en fait.
On est dans l'ère de la rationalité et de la circulation. On veut que la ville puisse être un lieu de circulation, un lieu fluide, et non plus un lieu occupé par la population, comme c'était le cas au XVIIIe, au début du XIXe siècle. L'exemple le mieux connu, évidemment, c'est les travaux d'Haussmann, à partir de 1853.
Quentin de Luermont.
Tout d'abord, l'aménagement de l'île de la Cité, avec la mise en place du palais de justice, le percement des grands boulevards, boulevard de Strasbourg, de Sébastopol, boulevard Saint-Michel, avec des grands axes et des immeubles type haussmanniens. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que Haussmann continue un mouvement antérieur, mais il l'accélère des dynamiques qui vont se renforcer après, avec notamment l'éclairage urbain qui se développe dès les années 1820. Et l'éclairage au gaz se développe énormément dans les années 1850, 1860. Toute la ville finit par être éclairée. Même chose pour les trottoirs qui apparaissent à Paris en 1840. Et puis enfin, c'est une période où la ville se montre à elle-même. C'est peut-être ça la meilleure définition de la modernité, ce qu'on appelle la spectacularisation du quotidien, avec les colonnes Maurice, le mobilier urbain. Une ville qui se montre à elle-même, qui affiche ostensiblement sa propre modernité. Alors cette modernité ne se fait pas sans combats sociaux de multiples manières. Il faut bien se rappeler que lorsque Haussmann met en place ses grands travaux, il se heurte à une opposition des habitants très forte, qui fait qu'en réalité, il ne parvient pas à mettre en place l'intégralité de son projet. Là, ce sont souvent des oppositions de gens plus fortunés qui ont les moyens de résister, mais il y a aussi une opposition évidemment populaire. Là encore, les quartiers du centre n'ont pas été autant vidés de leur population qu'on a bien voulu le dire. Et puis, dans les quartiers excentrés, comme à Belleville, qui d'ailleurs... est moins bien intégré, hein, c'est ce que dit Gérard Jacquemet très bien, cette modernité, l'éclairage urbain arrive beaucoup plus tard, l'asphalte aussi. Dans ces quartiers-là, on a littéralement une opposition populaire, une contre-culture qui s'oppose, se moque aussi, joue avec, détourne cette image de la modernité qui peut apparaître aussi comme une forme de modernité très bourgeoise. Ceci se ressent évidemment sur les usages du fleuve, hein. Certains quartiers restent très populaires comme autour du port de Bercy par exemple. Même si le port perd sa fonction traditionnelle de récupération du bois venu du Morvan. Et puis dans des quartiers centraux, très riches, comme ceux-là, évidemment la présence populaire est beaucoup moins bien perçue. Elle se fait donc moins massive. En même temps, le dimanche, les jours de fête, les gens viennent pour s'amuser. Et on voit aussi des gestes de moquerie à l'égard de ces populations les plus riches. Donc c'est aussi un lieu où les groupes sociaux s'observent, se regardent, se moquent un peu les uns des autres. Parce que ça reste un lieu de circulation dans l'espace urbain.
De fait, la Seine va devenir de plus en plus un lieu où on va marcher, où on va se promener. Mais les ports d'arrivée sont repoussés soit vraiment à la périphérie, dans ce qu'on appellerait la banlieue, ou à la Villette, et par conséquent, la fonction de transport de la Seine, en tout cas jusqu'au cœur de Paris, va être largement amenuisée. Par contre, il y a une nouvelle activité de transport qui va naître avec les expositions universelles, c'est les bateaux-mouches, hein, puisque c'est dès l'expo de 1855 qu'on va imaginer de transporter les visiteurs, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes, de l'exposition universelle grâce à des bateaux, sachant que la Seine a été la colonne vertébrale de toutes les expositions universelles.
Pour drainer ces centaines de milliers de personnes qui fréquentent une exposition universelle, Paris doit se transformer, Pascal Horry.
Au moment de chaque exposition universelle, Paris, la France, est sous le regard de l'étranger. D'autre part, souhaite, et c'est vérifié, accueillir des millions de visiteurs, français ou étrangers. On commence avec 5 millions d'entrées recensées pour la première exposition, ce qui est quand même déjà pas mal, 1855. On invente d'ailleurs le tourniquet compteur à cette occasion. Et on arrive à 50 millions d'entrées, parce qu'on dit souvent visiteurs d'entrées. Parfois, ils sont venus deux ou trois fois. En 1900, vous imaginez? Donc, chaque exposition est l'occasion de la création ou de la reconstruction des grandes gares parisiennes. Pratiquement toutes les grandes gares parisiennes sont liées directement ou indirectement aux expositions. Le long de la Seine, c'est bien sûr la gare d'Orsay, qui accueille aujourd'hui le musée d'Orsay, 1900, mais aussi la petite gare discrète des Invalides, 1900, la gare de Lyon, 1900, dans son état actuel. Il y avait une gare de Lyon avant. On l'a reconstruit parce qu'il y a la nécessité de l'expo universelle et que l'étranger va affluer, c'est vrai. 50 millions d'entrées quand même en 1900. L'exposition est également à l'origine de la reconstruction dans son état actuel de la gare Saint-Lazare, 1889. On pourrait multiplier les exemples. On construit ou on reconstruit des ponts. Le pont de l'Alma, c'est pour la première exposition, 1855. Le pont d'Iéna va être agrandi pour l'exposition de 1937. On agrandit, on élargit les quais, on canalise tout simplement la Seine. La Seine est en quelque sorte bétonnée, comme on dirait aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'elle devient un grand canal. Et les expositions sont l'occasion d'avancer. C'est-à-dire qu'on hésite, tout ça est coûteux, les parlementaires sous la Troisième République de la province protestent, mais quand approchent les échéances, alors là on dit non, franchement, on ne peut pas rester dans l'État. Et n'oublions pas, bien sûr, ça c'est assez connu, que le chemin de fer métropolitain, le métro, c'est l'exposition de 1900 qui le rend possible. Ça faisait à peu près 25 ans qu'on en discutait, et là la proximité de l'exposition, les embouteillages monstrueux de 1889 disent non, cette fois-ci, il faut franchir le pas.
Le bateau file entre de vastes bâtiments sans aucune prétention architecturale. La manutention, les magasins militaires, la manufacture des tabacs. Il fait escale au pont des Invalides. À gauche, les ombrages des Champs-Élysées, d'où émerge assez lourdement la grande cage du Palais de l'Industrie. Dans le fond, en arrière, l'Arc de Triomphe détache sa silhouette imposante sur un fond embrasé par le soleil couchant. À droite, le dôme des Invalides étincelle sous sa carapace dorée. Que de bateaux chargés de bois et de charbon tout le long du quai d'Orsay. À travers les grands arbres se dessine la blanche rotonde du palais de la Légion d'honneur, relevée de ses ruines. Le jardin des Tuileries semble verser jusque sur nous la fraîcheur de ses ombrages. Mais qu'est-ce que cette succession de monuments dévastés, triste à mourir, laissant passer le ciel par les ouvertures béantes de leurs fenêtres. Ah, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Caisse des dépôts et consignations, des souvenirs de la Commune. Il y faisait chaud, dit d'un air mélancolique un petit sergent à son voisin. Prolétaire qui fume avec volupté, son brûle-gueule à la figure des dames. Eh, je le sais bien, répond celui-ci d'un air goguenard qui donne beaucoup à entendre.
Esquisse et croquis parisien par Victor Fournel.
Dans cette histoire, il y a un moment assez intéressant qui est sans doute celui de la Commune. Le mouvement part de Montmartre et puis après, toutes les populations excentrées, le 18 mars, sont venues jusqu'à l'hôtel de ville pour occuper la ville.
Quentin de Luermoz.
En réalité, c'est un mouvement qui est extrêmement intéressant parce qu'il montre que derrière la modernité, il n'y a pas un seul courant qui irait dans un seul sens. La Commune s'est voulue extrêmement moderne. Un de ces mots d'ordre, c'est le positivisme. Et ce qu'on entend quand on est dans les clubs, c'est le combat de l'avenir contre le passé. Et le passé, il n'est pas à Paris, il est à Versailles. Et l'avenir, c'est celui de l'émancipation du peuple, grâce notamment aux sciences, à l'instruction, à l'éducation, et une meilleure organisation du travail et une meilleure redistribution des richesses. D'ailleurs, il n'y a pas de volonté de collectivisation. L'idée, c'est que chacun ait suffisamment pour vivre et que les écarts de richesse ne soient pas trop importants. Donc en ce sens-là, Paris incarne une forme de modernité, le Paris communard. Il s'oppose à une autre, qui est celui de ce qu'on appelle à ce moment-là la fête impériale, c'est-à-dire une modernité des nantis, une modernité des riches. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la façon dont les communards ont réoccupé les espaces qui leur étaient interdits. C'est le cas des Tuileries, c'est le cas des ministères, c'est le cas des hôpitaux. On a souvent décrit des scènes d'orgie avec des communards qui boivent beaucoup de vin, etc. En réalité, boire le vin de la cave de ces lieux-là, c'est aussi une forme d'appropriation populaire extrêmement importante. Et là, il y a une opposition à cette modernité qui était aussi ségrégation, qui était démonstration de richesse, qui était aussi une forme d'usage de la technologie qui s'opposait, ne l'oublions pas, à l'arrivée de nouveaux mouvements révolutionnaires. Haussmann fait ses grands percements aussi pour éviter un nouveau juin 48.
Qui a droit à ce Paris-là, au bord de la Seine, à la fin du 19e siècle? Est-ce que tous les Parisiens, après la tentative de reconquête, dit-on, du centre de Paris par les communards, ont droit à venir se promener ici? Est-ce que la République, d'une certaine façon, fait de ces lieux de bord de Seine, ces nouveaux lieux donc réinaugurés au moment des expositions universelles, des lieux pour tout le monde?
On continue, évidemment, à venir s'amuser, se baigner, pêcher sur les bords de Seine. À côté de ça, il y a un certain nombre de transformations qui s'opèrent. Ce sont des usages festifs ou de loisirs beaucoup plus durables. Par exemple, les piscines en plein air se développent à ce moment-là, et c'est un lieu qui est plutôt réservé à des classes bourgeoises, un lieu d'exposition de soi, d'exposition de sa musculature. Et évidemment, c'est un lieu de mise en scène de la ville, notamment en 1900, au moment de l'exposition universelle, où toute une série d'animations sont mises en place, pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, sur les berges, de façon à ce que non seulement les Parisiens, mais le monde entier, dans l'esprit de l'exposition universelle, puissent profiter de cette artère qui est considérée comme une artère à la fois historique et comme une véritable voie de la modernité urbaine de l'époque.
À bord d'un bateau-mouche alerte et matinale, du viaduc d'Auteuil au pont national. Spectacle intéressant, plus qu'on ne s'imagine. Bercé par le hockey rythmé de la machine, auquel parfois l'écho des rivages répond, le flâneur fut mes rêves en marchant sur le pont. Là, du monde amusant survient à chaque escale. C'est l'ouvrier, lisant la feuille radicale. Que rédige pour lui Rochefort ou Naquet ? C'est le bourgeois de Londres, armé d'un couc-tiquet, et traînant après lui trois miss en robe courte, le patronné portant sur sa tête une tourte. Le gros homme en sueur qui s'assied et dit « Ouf !» Et là, pas le grisette en mince waterproof, avec ses jolis yeux et son teint de chlorose. Allez, là, par un temps voilé de brume rose, par un matin d'octobre ou d'avril, voulez-vous, faites-moi le trajet complet pour vos trois sous.
Le bateau-mouche, poésie de François Copé.
Entre le milieu du 19e siècle et 1900, l'inauguration de la gare d'Orsay, Karine Bowie, c'est le grand développement de la ville de Paris, c'est sa modernisation, l'arrivée de l'éclairage, la construction évidemment de nouveaux boulevards. En quoi justement le chemin de fer participe-t-il à cette modernisation ?
Les chemins de fer permettent, à mon avis, sur le plan industriel, économique, technique, de mettre en œuvre des objectifs qui étaient en formulation depuis très longtemps. L'historien et l'ingénieur Antoine Picot parlent d'un nouvel idéal circulatoire qui s'exprime déjà au XVIIIe siècle. Mais là, c'est donc le bâtiment voyageur monument urbain quand finalement arrive au cœur de Paris, en face du Louvre, et donc ça donne lieu à toutes sortes de débats. On parlait d'une usine de transport qui n'aurait pas du tout sa place en face du Louvre, en face des Tuileries. Et donc, on a beaucoup de documents concernant les concours pour la création de cette nouvelle gare. Et on voit qu'il y avait un des premiers intervenants voulait avoir une gare en briques, en céramique, en métal, avec les nouveaux matériaux de l'époque beaucoup plus visibles. Mais on ne peut pas avoir en face du Louvre, près des Invalides, une usine des transports. Donc il faudrait quelque chose de prestigieux. Donc ça donne lieu à toute la réflexion autour de la création d'une gare moderne pour la technologie de l'époque très, très hardie et poussée. Parce que, comme vous savez, on va mener les voies ferrées depuis Austerlitz sous les quais de la Seine en reprenant sous ouvre les ponts pour aménager cette voie ferrée depuis Austerlitz jusqu'ici en souterrain. Donc c'était complètement nouveau. On doit pomper l'eau pour les questions d'inondation ici. Donc c'est vraiment très poussé techniquement. Mais on va enrober la structure pour protéger de l'humidité, pour le rendre plus stable. Mais donc ça donne lieu à une expression architecturale, voilà, belle époque, magnifique, prestigieuse, qui rassure, même avec cette nouvelle technicité.
L'un des enjeux de ces régimes du XIXe siècle, et surtout Second Empire et Troisième République, c'est de se situer dans une sorte de continuité paradoxale par rapport à l'esprit de festivité de l'Ancien Régime.
Pascal Horry.
Continuer à ébahir une population qui désormais a le pouvoir d'une certaine façon, et en modifiant quand même le caractère aristocratique, nobiliaire et effectivement monarchique de ça, puisque d'une certaine façon, les expositions universelles, elles sont ouvertes à la société dans son ensemble. C'est la société qui est le nouveau prince, à laquelle on offre des réjouissances avec un certain nombre de monuments éphémères, parce que l'éphémère, c'est très important. C'est dans ces expositions qu'on teste des éclairages. Le passage à l'électricité est très important. Ce qu'on appellera plus tard les sons et lumières, ils sont testés dans les expositions universelles. Des fontaines lumineuses et tout ce que vous voulez. En 1900, c'est extraordinaire. Quand on a quelques images cinématographiques, opérateurs lumière, etc., de 1900, on se croit dans une ville absolument fantastique, puisque une partie des pavillons sont sur l'eau ou juste à côté. Mais il y a une partie des expositions qui se déroule vraiment sur l'eau. Et on transforme complètement, pendant 6 mois, tout un paysage. On se croit parfois à Shanghai. C'est assez étonnant. Donc, le fleuve est effectivement une sorte de grande artère. D'ailleurs, le fleuve est désormais parcouru par les bateaux-mouches. Les bateaux-mouches, on l'a oublié, c'est un terme typiquement lyonnais. C'est un entrepreneur de Lyon qui vient du quartier de la Mouche, qui a obtenu la concession des bateaux qui permettent de réunir les extrémités des expos, puisque d'expo en expo, on s'étend de l'extrême ouest à l'extrême est. Et donc il faut trouver des moyens de locomotion. Il y a entre autres des bateaux dits bateaux-mouches. Donc la Seine, c'est vraiment une grande avenue, un grand axe.
Paris, en réalité, est déjà l'objet d'un mythe.
Quentin de Luermoz.
Qui circule à très grande échelle, une échelle globale et mondiale. Donc cette mise en scène de la modernité, elle se fait au quotidien, je l'ai dit tout à l'heure, avec le mobilier urbain, la mise en scène de la ville. Elle se fait également par des grandes campagnes de promotion, soit événementielles comme l'exposition universelle, mais même sur des éléments auxquels on ne l'attend pas. Le meilleur exemple est sans doute celui du policier au bâton blanc, qui est créé en 1896, qui incarne une image de la police chef d'orchestre de la ville. En réalité, il y a autant de bouchons à l'époque qu'aujourd'hui qu'il y en avait avant. Mais ça incarne une certaine forme de mécanique urbaine, de fluidité, qui va avoir un grand succès, puisque cette image va devenir une des incarnations de Paris en France, en Europe, aux États-Unis, à tel point qu'on va réutiliser soit des gants, soit des bâtons blancs, et puis encore au-delà. Donc une multitude de manières de mettre en scène cette modernité.
Pour beaucoup de touristes, une des seules traces, mais ça n'est pas vrai, des expositions universelles dans Paris, c'est la Tour Eiffel, Pascal Horry.
La Tour Eiffel peut être, d'après moi, considéré comme l'anti-Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est un arc qui a été construit en l'honneur d'un dictateur, Napoléon Ier, d'ailleurs arc inachevé. Les républicains ont renversé son neveu, Napoléon III. Ils ne savent pas quoi faire de ce bâtiment impérial, couvert d'inscriptions évoquant l'armée, la dimension guerrière de l'État français. La Tour Eiffel, c'est une arche. Il ne faut pas oublier que c'est une arche sous laquelle on passe, sous laquelle d'ailleurs est construit pour l'exposition de 1889 un groupe sculpté symbolique de la République. C'est une arche. C'est pas parce qu'elle est pointue qu'elle s'élève vers le ciel, vers un ciel où sans doute il n'y a plus de Dieu mais beaucoup d'électricité, qu'il faut oublier que c'est une arche. C'est une arche métallique et non pas de maçonnerie, transparente et non pas opaque, avec des inscriptions, ce qu'on oublie souvent, il y a des inscriptions qu'on peut voir aujourd'hui en se tordant un peu le cou quand on monte à la Tour Eiffel, et non plus en l'honneur de généraux ou de maréchaux, mais en l'honneur de savants et d'ingénieurs. Donc je viens de résumer l'idéologie de la Troisième République. Quand elle est construite, à l'issue d'un concours dont on savait bien, dans le microcosme parisien, comme on dirait aujourd'hui, que c'était Eiffel qui allait le gagner parce qu'il était bien introduit auprès du personnel républicain au pouvoir, républicain de gauche, presque radical, eh bien, on était très content dans le milieu d'Eiffel et parmi ses amis républicains de la démonstration de génie technique. D'ailleurs, Eiffel a accueilli symboliquement au premier étage de sa tour, quelques temps après l'inauguration, Thomas Edison, c'est-à-dire l'autre grand génie républicain de l'époque, la preuve que les républiques pouvaient produire du génie technique, d'ingénieur quelque part, Eiffel, Edison, qui se serrent la main, deux républiques. C'est quand même un type de régime rare à l'époque. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Premier point, beaucoup ont pétitionné à l'époque, mais généralement avant que la tour Eiffel ne fût terminée, contre son édification et surtout pour qu'elle ne survivent pas à l'exposition. Guy de Maupassant a été parmi les pétitionnaires. On a parlé d'une cheminée d'usine. Il faut imaginer que face quand même à l'école militaire de Louis XV, c'était violent. Et surtout, ça allait rester. Alors, Gustave Eiffel a passé son temps à s'échiner, à trouver une justification à la survie de la tour. Il y a eu même, à un certain moment, l'idée qu'il fallait attendre la prochaine exposition qui pourrait servir pour l'exposition qui sera finalement celle de 1900. Et en effet, la téléphonie sans fil, la TSF, la radio, en a fait une grande antenne. Ça a été une des meilleures utilisations. Et d'ailleurs, l'armée l'a compris et en a fait d'abord sa première grande antenne, puisqu'il ne faut pas oublier que la radio a d'abord été utilisée par la marine de guerre, puis la marine marchande et par l'armée.
Il devait être agréable de rentrer autrefois, habillé en cour par la Seine, et de voir Rodin, petit dieu trapu à barbe de fleuve, qui regagnait par le bateau mouche sa maison de Meudon. On mettait une heure pour aller du Pont Royal à la station. C'était un moment paisible que celui que l'on passait sur ce modeste navire après la fièvre d'une journée de Paris. Lorsqu'on voit ce que les automobilistes d'aujourd'hui font du temps gagné, on regrette cette heure qui séparait le Pont Royal de Billancourt et qui n'était sûrement pas une heure perdue.
De la Seine nourricière à la Seine spectacle. Avec Arlette Farge, Karen Bowie, Quentin Deluermoz, Pascal Horry et Isabelle Bacouche. Texte lu par Daniel Königsberg. Prise de son, Jean-Marie Porcher, Raymond Alboui. Mixage, Philippe Bredin. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Renaud Dalmar. Un documentaire à réécouter sur le site internet de France Culture si vous le souhaitez, comme toutes les autres émissions de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons notre portrait de villes en mouvement. Demain, nous parlerons de Lisbonne, jeudi de Bagdad et vendredi de Londres.